C'est le moment de l'interview scientifique. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors vous êtes médiateur scientifique et conférencier, passionné d'astronomie et d'écologie. Vous êtes le fils d'Hubert Reeves, astrophysicien reconnu, et vous contribuez à votre tour à faire découvrir l'univers au grand public à travers vos conférences et vos interventions.
Vous intervenez régulièrement pour expliquer les sujets comme la formation des étoiles, les exoplanètes ou encore l'origine de la vie dans l'univers. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Les élèves sont impatients de vous poser leurs questions et on commence par Matisse.
Qu'est-ce qu'il vous a donné envie de vous intéresser à l'astronomie quand vous étiez plus jeune ?
Ce qui m'a attiré très tôt, c'est le sentiment d'émerveillement. Regarder le ciel la nuit, c'est se rendre compte que nous faisons partie de quelque chose d'immense. Dans mon cas, il y avait aussi une présence familiale liée à l'astronomie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mon père, Hubert Reeves. Mais au-delà de tout cela, c'est surtout une curiosité très simple. Comprendre ce que sont ces points lumineux dans le ciel et pourquoi ils existent.
Yasmine, tu avais une question, je crois, aussi.
Comment se forme une étoile ?
Bonjour Yasmine. C'est à la fois simple et délicat à comprendre. Une étoile naît dans un immense nuage de gaz et de poussière, qu'on appelle nébuleuse. Sous l'effet de la gravitation, le nuage se contracte sur lui-même lentement. En se contractant, il se met à tourner et la matière chauffe de plus en plus. Quand la température devient suffisamment élevée au centre, plusieurs millions de degrés, les réactions nucléaires commencent. C'est la fusion d'un gaz qu'on appelle hydrogène en un gaz qui s'appelle hélium. C'est à ce moment-là que l'étoile s'allume.
Sarah, une autre question aussi sur les étoiles.
Que se passe-t-il exactement quand une étoile meurt ?
Tout dépend de sa masse. Une étoile qui est à peu près grosse, comme le Soleil, va d'abord gonfler jusqu'à devenir une géante rouge. Et puis, elle va se déchirer. Elle va expulser ses couches externes pour former une nébuleuse planétaire. Toutes ses couches supérieures seront éjectées très loin dans l'espace. Il reste au centre un cœur dense qui fait fondre sur lui-même, qu'on appelle une naine blanche. Une naine blanche, c'est tellement concentré que quand tu en prends une cuillère à café, elle va peser une tonne. Une étoile beaucoup plus massive va exploser, elle, en supernova. Cette explosion peut laisser derrière elle une étoile encore plus concentrée qu'on appelle une étoile à neutrons. Si tu prends une cuillère à café d'une étoile à neutrons, elle va peser non pas une tonne, mais 100 millions de tonnes, c'est-à-dire aussi massive que le Mont Blanc dans une seule cuillère à café. Et si elle est encore plus massive, alors là, elle va devenir un trou noir. Ces morts d'étoiles sont essentielles. Elles fabriquent et vont disperser des éléments chimiques nécessaires à la vie. Carbone, oxygène, fer, par exemple.
C'est au tour de Rita.
On parle beaucoup d'exoplanètes. Comment les scientifiques détectent-ils une planète autour d'une autre étoile que le Soleil ?
En fait, on ne les voit jamais directement, ou presque jamais. On les détecte indirectement car elles sont beaucoup trop petites et beaucoup trop proches de leur étoile. Il y a deux méthodes principales. La première, c'est la méthode des éclipses. On appelle ça le transit en astronomie. Là, c'est très simple. La planète passe devant son étoile et fait légèrement baisser sa luminosité. La deuxième méthode, c'est celle qu'on appelle la méthode des vitesses radiales. La planète fait osciller un peu l'étoile sur elle-même, ce qui modifie légèrement la lumière que nous recevons. C'est un travail d'une extrême précision.
Yasmine, prochaine question.
Quelles conditions sont nécessaires pour qu'une planète puisse abriter la vie ?
C'est une question essentielle, mais avant tout, dans ta question, il y a quelque chose qui est important. Et qu'est-ce que c'est la vie ? Nous connaissons la vie sous ses formes terrestres, mais qui te dit qu'elle aura la même forme dans l'univers ? Donc, il faut vraiment s'interroger, scientifiquement parlant, sur ce que c'est la vie dans l'univers. Mais si on considère que la vie a une forme plus ou moins terrestre, alors plusieurs éléments sont importants. D'abord, de l'eau liquide. Pas d'eau glacée ou de la vapeur d'eau. Ça, c'est important. Ensuite, une température modérée, entre 0 et 100 degrés, c'est-à-dire au-dessus de la température que l'oxygène et en dessous de la température de l'eau qui coule. Ensuite, il te faut une atmosphère protectrice. Une atmosphère, c'est-à-dire comme nous avons de l'air qui nous permet de respirer, ça veut dire une planète assez grosse pour retenir l'eau et l'atmosphère qui sont dessus. Et puis, à côté, il faut une source d'énergie qui sera souvent une étoile. On parle souvent de zones habitables, mais il faut savoir rester prudent. La vie pourrait exister dans des conditions très différentes de celles de notre planète, la Terre.
C'est au tour de Matisse. Le trou noir au centre de notre galaxie influence-t-il la formation ou l'évolution de la Voie lactée ?
Alors, la réponse est oui, mais de manière indirecte. Le trou noir au centre de la Voie lactée s'appelle Sagittarius A étoile. Il est extrêmement massif, il est gros, mais il est aussi très petit à l'échelle de la galaxie. Il n'aspire pas la galaxie comme tu pourrais l'imaginer. En revanche, il joue un rôle dans l'histoire de la formation galactique et peut influencer le mouvement des étoiles voisines. Dans certaines galaxies, ces trous noirs peuvent même aller jusqu'à réguler ou organiser la formation des étoiles.
Sarah, prochaine question.
Vous travaillez aussi sur le lien entre astronomie et écologie. En quoi comprendre l'univers peut-il nous aider à mieux protéger la Terre ?
Alors, pour mieux comprendre en quoi l'univers peut nous aider à protéger la Terre, on a ce grand avantage, c'est que l'astronomie nous donne du recul. On voit les choses de loin ou de haut, si tu veux. L'astronomie nous montre que la Terre est un objet extrêmement rare et fragile. Les astronautes de la mission Artemis 2, qui sont revenus hier matin sur Terre, ont fait cette remarque magnifique en disant « La Terre, dès qu'on s'en éloigne, elle est toute petite, toute bleue, et elle apparaît perdue dans l'immensité noire de l'univers. » Et nous réalisons que la Terre est un canot de sauvetage dans cette situation galactique, cette situation spatiale. Quand on observe, par exemple, l'absence d'atmosphère sur Mars ou des conditions extrêmement chaudes sur Vénus, où il fait presque 500 degrés, on comprend que notre planète a beaucoup de chance d'avoir un équilibre si particulier qui permet la vie. Comprendre l'univers, c'est aussi comprendre que nous n'avons pour l'instant aucun autre lieu où vivre. Nous n'avons pas de planète de rechange. Cela renforce la nécessité de préserver notre environnement.
Merci. Dernière question posée par Rita.
Quel conseil pouvez-vous donner à un élève qui aimerait devenir astronome ou astrophysicien ?
Alors, la première chose, c'est d'abord cultiver la curiosité et le plaisir d'apprendre. Il est extrêmement important d'être curieux, de comprendre ce qui se passe dans notre univers. Ensuite, ce qui va être important pour vous, c'est être à l'aise avec les mathématiques et la physique. Les mathématiques, parce que ça nous permet de calculer les distances astronomiques à l'échelle de l'univers, et la physique, parce que l'astrophysique est une dimension qui permet de voir presque en temps réel ce qui se passe dans la physique de l'univers. Il va falloir aussi apprendre à être patient et rigoureux. Parce qu'on reçoit des milliards de données de l'univers, il va falloir les trier, les analyser, les comprendre. Les télescopes d'aujourd'hui, aidés de l'intelligence artificielle, nous permettent d'observer en une seule fois des dizaines de millions de galaxies. Donc vous imaginez le travail de traitement de données que ça représente. Donc être astrophysicien aujourd'hui, c'est savoir être très méticuleux, patient et s'y connaître aussi bien sûr en informatique. Ne pas se décourager face à la difficulté. Comprendre pourquoi un système n'a pas de vie ou analyser des centaines de milliers d'exoplanètes sera quelque chose d'assez, peut être assez décourageant, mais il faut continuer. Puisque un jour, on découvrira probablement de la vie ailleurs, et là, ça sera une découverte qui va couronner des années d'efforts, des milliers d'années d'efforts de réflexion de l'humanité en matière de recherche de vie dans l'univers. Surtout, le plus important, ça va être de garder intact cette capacité à s'émerveiller. L'émerveillement, c'est souvent cela qui permet de tenir. Donc voilà, courage, persévérance, patience, mais aussi mathématiques et physique. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions.
Eh bien, merci beaucoup pour la qualité de vos réponses, Monsieur Reeves. On va prendre un petit moment peut-être pour voir s'il y a des questions supplémentaires. Nathan ?
Que le salaire d'un astrophysicien, c'est peu ou beaucoup ?
Alors, j'aurais deux réponses à vous faire. Je dirais d'abord que ça dépend des pays dans lesquels on se trouve. Par exemple, en France, les astrophysiciens sont salariés par le CNRS majoritairement, ou par qui est le Centre national de recherche scientifique, et ils travaillent à l'Institut astronomique de physique. Ça n'est pas un salaire mirobolant, bien sûr, hein, ça sera, je ne sais pas, je vous dirais, peut-être en bonne carrière, 5, 6, 7000 euros actuellement. Mais j'aimerais vous faire une remarque que mon père faisait, qui m'a toujours inspiré. Il m'a dit, l'argent, tout ce que je veux, c'est en avoir assez pour ne pas avoir à y penser. C'est-à-dire pouvoir me concentrer sur les recherches sans avoir à m'occuper de faire vivre, de soucis pour faire vivre ma famille. Ça, c'est très important parce qu'évidemment, on a besoin de s'alimenter, de vivre. Mais il faut bien avoir conscience que, comme dans d'autres types de professions, ça n'est pas l'argent qui va guider essentiellement la recherche. C'est plutôt la recherche des merveilles du monde, la beauté du monde. Et la notoriété ne vient pas forcément par l'argent. Mon père, qui n'était pas si riche que ça, loin de là, étant son fils, je le sais, par exemple, à peine 2 ans après sa mort, il a sa statue dans Paris. La notoriété n'est pas forcément en lien avec la richesse.
D'accord ? Ça, c'est très important. Si vous allez aux États-Unis ou en Angleterre, en États-Unis, vous aurez peut-être des salaires beaucoup plus élevés, mais on va vous demander de faire des recherches plus empiriques. On va peut-être vous forcer à aller vers des résultats qui sont financièrement viables, même au détriment de la qualité de la recherche. Par exemple, la compétition entre la Chine et les États-Unis peut forcer à faire des voyages vers Mars pour des raisons qui ne sont pas forcément scientifiques au départ, mais plutôt militaires. D'accord ? Donc, ce que je vous invite vraiment, c'est à mettre votre recherche de curiosité en avant, avant même l'idée de salaire, sachant que de toute façon, si vous arrivez à obtenir ces postes, vous n'aurez de quoi faire vivre votre famille. Mais vous n'aurez pas forcément le salaire de Elon Musk, par exemple.
Mathis, tu as reformulé ta question.
Pourquoi Pluton n'est pas une planète ?
Alors, c'est une histoire à la fois simple et compliquée. Pluton est une planète qui a été récemment découverte, en 1930 à peu près, par un astronome américain, Clyde Tombaugh, qui avait découvert effectivement qu'il y avait quelque chose qui bougeait, et donc dans le fin fond du système solaire, et qui a découvert une petite planète, puisqu'elle ne mesure que 2200 km de diamètre, c'est-à-dire même pas la moitié des États-Unis. C'est une toute petite planète. Donc pendant un temps, on a intégré cette planète au système solaire, mais on s'apercevait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est-à-dire qu'elle ne suivait pas l'orbite des autres planètes. Elle était très inclinée et elle faisait une orbite beaucoup plus longue. Et puis les choses se sont compliquées quand on a vu qu'autour de cette planète, il y avait une lune qui était aussi grosse qu'elle. Pluton est adjointe, si vous voulez, à la lune qui s'appelle Charon, qui est pratiquement aussi grosse qu'elle. Donc la question s'est posée de savoir laquelle est la planète, laquelle est la lune, si on peut dire. Donc un grand débat a été créé dans l'Union astronomique internationale qui a suscité tout un tas de questions, à savoir qu'est-ce que c'est qu'une planète. Est-ce qu'on a fini par définir comme une planète ? Il faut déjà que ça soit assez gros pour être rond, que ça tourne assez rond autour du Soleil, si on peut dire en orbite assez circulaire, ou du moins pas trop excentrique, et qu'elle ait pu ramasser autour d'elle tous les petits corps qui pouvaient gêner son transit, son voyage autour du Soleil, donc faire le ménage, que ça soit un peu propre. Et donc, en étudiant les réponses à ces trois questions, il y a eu des comités qui se sont fondés, mais pour tout te dire, le jour du vote à savoir si ça serait une planète ou pas, eh bien, il y a des gens qui n'étaient pas là pour répondre à la question, ce qui fait que la planète a perdu son statut de planète, mais très vite après, on lui a donné le nom de planète naine, qui veut dire qu'elle est elle a un autre statut, et surtout, ça ne l'empêche pas d'être là encore, parce que du point de vue de Pluton, les choses ne changent absolument pas, bien sûr, mais la question du vote a été cruciale. Si le vote avait été fait un lundi, par exemple, plutôt qu'un dimanche, peut-être on n'aurait pas eu le résultat. Voilà, pour répondre à ta question.
Merci. Avez-vous d'autres questions ? Pas de questions côté élève.
Ah, moi, j'aurais une question à poser à tous ces charmants enfants.
Oui.
Est-ce qu'il y en a parmi vous qui s'intéressent éventuellement à exercer la profession d'astrophysicien ou d'astronome plus tard.
Nathan Bigeux, 4e 4.
Bonjour Nathan.
Bonjour. Moi, quand j'étais petit, j'adorais l'espace. J'adorais.
Lina Fadoul, 4e 6. Moi, quand j'étais petite, alors je m'en passe, c'est pas pour faire l'intéressante, je voulais être astronaute ninja. en fait, je croyais qu'il y avait des aliens dans l'espace et je voulais les combattre. Du coup, je voulais.
Elle a trop regardé Sam Sam. Mathis Bigeux, 4e 4. Moi aussi, des fois, en gros, quand je regardais la Lune, je me disais qu'est-ce qui se passe autour parce que je ne savais pas qu'il y avait d'autres planètes dans notre système solaire.
D'accord. Ah, mais c'est génial. C'est génial. Formidable. Est-ce qu'il y a d'autres enfants qui ont des passions pour l'astronomie ?
Bonjour, je suis Esteban Abadia, en 3e 8. Et pour répondre à votre question, moi, personnellement, j'ai toujours été un peu passionnée par tout ce qui est l'espace, etc. Je le suis toujours, d'ailleurs. J'ai un peu voulu faire quand même votre métier ou un autre en rapport avec l'espace parce que, personnellement, moi, mon grand-père a pu travailler au CNES à Toulouse, notamment sur des projets comme l'horloge atomique de la Station spatiale internationale.
Ah oui, d'accord, oui, très très bien, je me souviens, d'accord. Ah bah oui, alors donc il a dû te passionner, il a dû te passer le virus, comme on dit.
C'est ça.
Eh bien, bienvenue, moi je suis dans le même cas, puisque mon père, je ne savais pas à l'époque qu'il allait devenir si célèbre, et quand on était tout petit, on allait regarder les étoiles filantes ensemble, et on discutait en regardant les étoiles filantes, et en fait, il s'est un peu entraîné, nous on lui posait des questions, il nous répondait,
il s'est entraîné un peu sur nous des questions qu'il a partagées après avec le public. Et donc, on a eu la chance d'avoir un des meilleurs professeurs à la maison, quoi. Et la passion est passée exactement comme toi, avec ton grand-père.
Merci.
Bonjour. Bah, merci beaucoup, c'est un plaisir. Bonjour.
Bonjour, je suis Riley en 5e 4. En fait, oui. Moi, c'est pas moi qui ai été passionnée par rapport à l'espace. C'était mon frère qui me faisait apprendre plein de choses déjà quand j'avais 6 ans. Et coup, il m'a fait beaucoup apprendre par rapport à ça. Il me parlait presque tous les jours de l'espace.
Voilà. Ben voilà une excellente façon d'avoir un frère dans cette famille. C'est plus simple. C'est à l'intérieur de la famille, donc c'est comme une passion commune. Ben, formidable, ben, bravo, et tu féliciteras ton frère de ma part.
Alors, je vais m'y mettre dans le lot un petit peu, parce que je pense qu'on est toujours des grands-enfants. La mission Artemis a continué, puisqu'on a fait un petit tour de la Lune. Prochaine étape, c'est marcher sur la Lune, et peut-être l'étape d'après, ça sera sur Mars. Que pensez-vous de cette mission, et qu'est-ce que ça peut nous apporter?
Alors, il y a deux choses dans votre question. La première question, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est le militaire. Et c'est exactement comme en 1969, quand l'homme a marché sur la Lune, c'était une compétition militaire avec un autre pays, à l'époque c'était la Russie, qui avait survolé Sputnik, et qui avait Yuri Gagarin, qui était les premiers astronomes dans l'espace, qui avait survolé les États-Unis, ce qui avait mis les États-Unis en grand émoi. Et mon père faisait partie de l'équipe qui a organisé les voyages de la Lune de 1969. Mon père a travaillé sur les cartes lunaires, à l'endroit où on avait posé la mission, les missions Apollo. Donc, il m'expliquait qu'il fallait y arriver avant les Russes. Là, c'est un peu la même chose, mais il faut y arriver avant les Chinois. Et les Chinois, détrompez-vous, ils vont très, très, très vite. Il y a des fortes chances qu'ils se posent soit en même temps, soit carrément avant les Américains. Alors, comme vous connaissez la mentalité actuelle des Américains, vous imaginez le mouvement. Donc ça, c'est la première chose. Mais il faut savoir que chaque mission, même si au départ elle est militaire, apporte énormément de données scientifiques. Et également, nous avons tous en nous cette curiosité d'aller explorer. Nous sommes des aventuriers. Une partie de l'humanité a toujours été conquérante. On ne peut plus conquérir la Terre actuellement parce qu'on la connaît. Rappelez-vous Christophe Colomb, Magellan, Vasco de Gama, tous ces découvreurs qui partaient en bateau au péril de leur vie. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Regardez l'engouement que suscite ce simple tour de la Lune, qui est une organisation effectivement préalable à un futur alunissage qui devrait avoir lieu en 2030 à la suite d'une série de missions d'organisation. Artemis 3 est prévu pour partir en 2027. Et Artemis 4, qui sera la première à poser 2 ou 4 hommes sur la Lune, ça je ne sais plus, est prévue pour 2029-2030, avec toujours ce contexte de compétition, avec cette fois les Chinois.
On va mettre fin à cette interview. On comptait vraiment vous remercier pour l'ensemble des réponses, la grande qualité pédagogique.
Je vous remercie également de votre participation et moi je voulais vous féliciter pour l'attrait que ont vos étudiants, vos élèves, aussi jeune soit-il, parce que 4e, 3e, c'est pas vieux.
Oui.
C'est formidable d'avoir des classes aussi passionnées par l'astronomie. Je vous félicite tous.
Merci beaucoup.